l'aspect policier de la bande dessinée. A priori, j'avais pas de, je dirais, de spécialité à parler de ce sujet-là. Et puis, réflexion faite, dans la mesure où j'avais une série qui s'appelle Pyramide, dont je vais finalement beaucoup parler, qui est une BD policière, et que je travaille actuellement sur une autre, qui est une adaptation d'un Agatha Christie pour une bande dessinée, je me suis dit qu'en partant de ces deux expériences, une qui est déjà publiée, puisqu'il y a 3 tomes, l'autre qui sera publiée début 2009, dans la mesure aussi où, dans un cas, il s'agit d'un scénario complètement inédit, et dans l'autre, de travailler sur un scénario qui existe déjà, puisque c'est un roman, je me suis dit effectivement qu'il y avait une matière à réfléchir à partir d'exemples, on va dire, particuliers, sur ce qu'est ce que sont plutôt les contraintes du récit policier dès qu'il s'agit de faire une bande dessinée. On n'écrit pas un scénario de bande dessinée comme on écrit un roman policier. Les contraintes ne sont pas du tout les mêmes, donc le but du jeu, certains aspects sont identiques et un certain nombre d'autres ne le sont pas. Donc on va, à travers les exemples que je vais vous montrer, de la première série notamment, on va commencer par Pyramide, on va effectivement voir que dans une bande dessinée policière, le plus policier n'est pas celui qu'on croit, ce n'est pas l'enquêteur, ce n'est pas forcément l'inspecteur qui est au centre, mais que finalement derrière, ou plutôt bien avant, en amont, c'est le scénariste qui est le premier policier. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que je dirais même d'ailleurs, c'est même le premier criminel, puisque c'est lui qui invente les crimes. Donc il y a d'abord cette idée effectivement que la plupart des récits policiers sont basés sur des crimes pour lesquels effectivement il faut trouver des assassins. Pas tellement le où et le quand, parce que c'est plutôt le qui intéresse et le pourquoi. Dans la plupart des cas, quand on a trouvé l'assassin, effectivement, il faut trouver les raisons pour lesquelles il a éventuellement commis tel ou tel crime. C'est tout le sujet là, de cette histoire. En 3 tomes, donc il y a une longue succession effectivement de péripéties et de découvertes toujours compromises pour que non seulement ça dure assez longtemps et en même temps effectivement qu'il y ait quantité de fausses pistes et même de hors-pistes, on pourrait dire. Alors, au départ, effectivement, le scénariste est le premier, on va dire, criminel de l'histoire. Et puis, très vite, il est aussi le premier policier, puisqu'il faut qu'à la fois, il invente les crimes et qu'il donne tous les éléments pour les résoudre, mais pas trop vite, progressivement, en perdant le lecteur, puisque le but du jeu, c'est effectivement, comme dans un roman, comme dans un film, de faire que le lecteur ne le découvre pas avant l'inspecteur. L'idée, c'est quand même celle-ci. Si le spectateur ou le lecteur découvre avant la fin de lui-même qui est l'auteur d'un crime, quelque part, c'est qu'on a un peu raté son coup. Voilà. Alors, à la limite, qu'on soit qu'on soit détective privé, qu'on soit policier, qu'on soit journaliste, je dirais peu importe le costume, puisque finalement c'est l'enquête qui compte. C'est le fait qu'il y a quelqu'un qui cherche à partir d'indices, à retrouver des indices pour trouver quelqu'un qui a commis tel ou tel délit. Alors si je prends l'exemple de la série Pyramide, alors je vais peut-être la présenter rapidement, puisque c'est aussi le principe. Il s'agit donc d'une histoire en 3 tomes qui se passe en 1820, la date est très importante par rapport aux notions de scène de crime, même comme on a pu le voir déjà rapidement là dans la petite expo. Précisément parce qu'en 1820, la police criminelle, on va dire, n'existe pas ou très peu. On en est encore au balbutiement de l'approche, on va dire, médicale ou scientifique des corps, des cadavres, etc. Donc on est en 1820, on a effectivement une série de personnages qui sont assassinés. Il y a forcément entre eux des points communs, puisque ces personnages ont, quand on les découvre, des points communs. Ils sont enrubannés à la façon des momies, et puis la plupart du temps, il leur manque un morceau du corps, un viscère qui n'est jamais le même. Sur cette base-là, on a un inspecteur de police parisien, que la mythologie, que l'histoire antique, que l'Égypte n'intéresse absolument pas. Je dirais même que la culture n'intéresse pas, la culture en général. C'est quelqu'un d'assez désinvolte, volontairement, on va dire, un peu anti-héros, ou en tout cas un flic pas trop traditionnel. Et il a pour adjoint un jeune qui s'appelle Victor, que tout le monde s'en nomme Vidocq, on y reviendra, et qui lui est beaucoup plus à la fois perspicace, cultivé, et ce qui crée entre eux des rapports un peu conflictuels de supérieur à subalterne. Alors, avec ce duo d'enquêteurs, et puis cette série de crimes qui va se répéter à Paris, sur des lieux qui sont égyptisants, c'est-à-dire des lieux qui ont, d'une façon ou d'une autre, une relation très directe, soit monumentale, la plupart du temps, ce sont des monuments, ou des lieux rappelant l'Égypte d'une façon ou d'une autre, on en reparlera avec quelques exemples. Sur cette base-là, effectivement, l'enquêteur doit reconstituer, en tout cas retrouver la piste du ou des tueurs, et surtout les raisons pour lesquelles certains personnages qui sont là en 1820 à Paris, qui a priori au départ ne se connaissent pas, il va falloir montrer qu'ils se connaissent, pourquoi ces personnages ont été tués en 1820. Les racines sont liées à la campagne d'Égypte en 1798, donc en Égypte, avec Bonaparte, et c'est toute cette remontée à la fois dans le passé de ces personnages et aussi dans l'histoire, on va dire, officielle ou officieuse du Paris égyptisant que j'avais effectivement brossé et placé l'ensemble de ces meurtres et de ces cadavres, on va dire. Alors, la première étape dans un récit policier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas d'inventer forcément un policier, mais c'est d'inventer un enquêteur. Alors, dans le cas de Nivose Rochelle, qui est le personnage central, dont j'ai brossé un petit peu le portrait, l'idée de départ, c'était aussi d'en faire un personnage que l'exotisme n'intéressait pas et qui petit à petit va être porté à partir. À travers ces cadavres, on va dire, aux allures égyptisantes, un peu momifiés, etc. Et puis il y a des messages, et puis il y a des lieux égyptisants. Petit à petit, il va se prendre au jeu de cette culture égyptienne, antique, et se dire que quelque part, ça doit être intéressant. Et puis de toute façon, pour trouver la clé de l'énigme, il va être obligé de partir, d'abord à Alexandrie, ensuite au Caire. Donc il y a effectivement pour lui l'obligation de quitter Paris et très vite de s'attacher finalement à cette terre où il atterrit, enfin si on peut dire, en bateau, avec en filigrane bien sûr, on va dire une histoire d'amour qui a son, enfin des histoires d'amour même qui ont leur importance. Alors pour créer un policier, je dirais, c'est relativement simple. Créer un contexte policier en 1820, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'il ne suffit pas d'être à Paris et de se dire que tout se situe quai des Orfèvres pour avoir à la fois la documentation, les décors nécessaires, etc. C'est là où, je dirais, le scénariste et le dessinateur, en l'occurrence c'est une dessinatrice, c'est là où on devient les premiers enquêteurs, parce qu'effectivement, on est obligé d'aller rechercher la doc qui existe, s'il en existe encore, pour savoir si ce qu'on va mettre en image, en dessin, a une validité historique, si effectivement les lieux étaient ceux-là. Alors on pourrait ne pas se poser la question et ne pas se préoccuper de réalisme, mais le réalisme documentaire dans une histoire policière est essentiel. Si on veut y croire, surtout dans une histoire, on va dire, teintée d'histoire, justement, au début du 19e siècle, il est important de se fier à des décors, en tout cas de faire comprendre au lecteur que ces décors sont réalistes et sont probablement ceux qui existaient à l'époque. Alors on va prendre quelques exemples pour vous montrer cette recherche qui, du coup, est parallèlement à l'écriture des dialogues, le découpage, etc., les choses dont on pourra reparler, est essentielle. Alors, on va attaquer ça. On peut éteindre, s'il vous plaît ? Voilà, ce sera plus simple. Merci. Et là, il y a un truc pour en dire. Alors, voilà. En 1820, la première question, c'est de savoir si le quai des Orfèvres, celui qu'on connaît aujourd'hui, avec ses bâtiments célèbres dans toutes les enquêtes télévisées et autres, si ce bâtiment-là existait déjà. Il n'existait pas encore. Le vrai quai des Orfèvres en 1820 ressemblait à ses dessins. Et curieusement, il n'existe pas beaucoup de représentations de ces lieux, pourtant qui, au niveau architecture, sont très intéressants, très originaux. C'est le quai des Orfèvres, avec les deux tours rondes, qui seront à l'époque considérées, enfin très très réputées, mais qui vont complètement disparaître dans un incendie en 1871. La première erreur qu'on peut faire, effectivement, c'est de ne pas tenir compte de l'histoire d'un bâtiment, de l'histoire d'un quartier. C'est là où, effectivement, il y a, dans un récit policier, d'abord être tatillon, je dirais même pire, puisque, au bout du compte, seul le scénariste et le dessinateur savent jusqu'où ils ont poussé l'effort de documentation, mais quelque part ça paye, puisque d'abord on peut en parler, la preuve, et puis notamment les gens, les Parisiens qui eux connaissent les quartiers, ces quartiers-là en plus en plein centre-ville, peuvent effectivement plus facilement comparer ces décors et puis ceux qui existent actuellement. Alors pour trouver ces ce genre de dessin, bien sûr, il faut remonter dans certaines histoires de Paris. Il faut aussi se renseigner, se documenter au musée de la police à Paris, qui nous ont fourni même des plans très complets. Il suffit que je trouve ça va être la suite. Voilà. On va revenir un peu en arrière. Voilà. On trouve donc des tableaux, des dessins représentant ces différents quartiers sous différents points de vue, ce qui est intéressant aussi pour un dessinateur parce que ça va permettre de faire circuler les personnages. Dans cette rue, celle qu'on voit en bas à droite, au bout de la flèche là-bas, cette petite rue qui s'appelle la rue de Jérusalem, qui était d'ailleurs le surnom même du quai des Orfèvres à l'époque, et c'était le nom de la rue. Effectivement, on rentrait pour aller dans les bureaux du quai des Orfèvres, on rentrait par cette rue, par cette porte. Et vous voyez qu'avec le musée de la police, ils nous ont donné des documents architecturaux qui sont très utilisables. Puisqu'il s'agissait, très facilement de reprendre ces documents pour les dessiner. La porte n'est plus là, puisque il y a eu l'incendie, mais cette porte a été récupérée. Je suis en train de chercher le nom du musée qui l'a... on la retrouve à Paris, elle est encore visible, mais tout à fait ailleurs. Ça me reviendra sur... Musée Carnavalet, d'ailleurs, c'est écrit là. Voilà. Donc, elle est récupérée, elle a été remontée, on peut la vérifier, enfin, aller la voir en vrai. Et du coup, elle a été déplacée, mais on peut la réutiliser, la remettre dans son contexte. Même principe avec les plans qui permettent de circuler, de faire circuler les personnages. Donc, là aussi, c'est important pour une bande dessinée de retrouver effectivement le cheminement que pouvait prendre un enquêteur pour aller jusqu'au bord de la Seine. Pour aller même réfléchir en se posant sur les berges de la Seine, etc. Donc, tout ce petit cheminement, cette ruelle qui permettait d'aller jusqu'à l'église qui est au milieu, là, je suis en train de chercher son nom. Elle est sur l'agrandissement. La Sainte-Chapelle, voilà, tout simplement. Avec la conciergerie, on est tout près de. Enfin, on est en plein sur l'île de la Cité, mais version 1820. Alors, c'est évident que pour la plupart de ces documents, enfin, de ces bâtiments, il n'existe aucun document. On a quelques visions, quelques vues dessinées de cette zone-là. Ici, il n'y avait rien. Maintenant, il n'y a plus rien, puisque c'est devenu un petit parc au bout, etc. Sur la partie... essayer de faire avancer ça. Alors voilà, un autre aspect. Un autre aspect qu'on trouve en allant au musée de la police, c'était savoir comment un inspecteur de police pouvait se présenter quand il enquêtait, quand il allait se présenter auprès de gens auprès desquels il posait des questions. Et au musée de la police, autour des années 1800, il y a ce genre de petits badges en carton, enfin rond, tel que c'est représenté ici, sur lesquels étaient indiqués les noms, les mensurations, la couleur des yeux, etc., de l'inspecteur de police pour qu'il s'identifie. Là encore, c'est le genre de petits détails qui a un double fonctionnement dans la bande dessinée. D'une part, ça permet d'en savoir un peu plus sur l'enquêteur sans rien dire. Il suffit de lire en détail ce qui est indiqué ici. On a... son âge, on a sa taille, etc. C'est-à-dire qu'on peut effectivement apporter des informations qu'on n'apporterait pas dans des dialogues. Et puis, parallèlement, on apporte une caution, on va dire, documentaire à ce qui est montré. Alors, on va aller maintenant sur différents lieux parisiens. Non, c'est par là. Pour montrer aussi comment on peut utiliser des lieux qui existent encore et éventuellement des lieux qui n'existent plus. Mais qui ont tous un rapport avec l'histoire égyptisante de Paris. Après le retour de Bonaparte, donc au tout début du 19e, il va y avoir une mode qui existait déjà avant même qu'il parte d'ailleurs en Égypte. C'est aussi pourquoi ils y partent, avec des savants, etc., des dessinateurs. Mais cette mode va être encore amplifiée au retour, sachant par exemple, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, que dans les scientifiques qui accompagnent Bonaparte, il y a notamment Vivant Denon, qui est un spécialiste de l'art et de bien d'autres choses, mais qui a notamment dirigé le Louvre, après, justement, après être revenu d'Égypte, et qui a fait aussi des bouquins de dessins qui sont la documentation la plus solide sur la fin du XVIIIe siècle en Égypte, sur les bâtiments, sur les objets, sur les gens, etc. La description de l'Égypte, hein, ça s'appelle. C'est un ensemble de livres. Alors, dans les phénomènes qui se développent au début du XIXe, c'est la construction notamment de façades, de fontaines, de façades, bien sûr, on le verra tout à l'heure avec les sphinx, les sphinges, etc. Et notamment donc, ce genre de fontaines qui sont à la fois latines et égyptiennes. Alors, celle-ci, c'est rue de Sèvres. Elle existe toujours. Elle est, comme on le voit en bas, près d'une station de métro aujourd'hui. On va essayer de la retrouver là, voilà. La station est ici, la fontaine est là. Alors, dans le travail, on va dire un peu d'enquêteur, l'idée d'aller chercher, prendre des photos, faire du repérage et se dire que ce genre de lieu est très intéressant pour placer des personnages, c'est une première étape. La deuxième est de se dire, est-ce qu'en 1820, cette fontaine existait ? Un certain nombre de lieux sont forcément des lieux qui sont postérieurs. Alors, on peut soit se dire que ça n'a pas d'importance et utiliser ces lieux quand même. Moi, j'ai un souci un petit peu plus documentaire, un petit peu plus pointilleux de ce côté-là. Et dès que cette fontaine, que je trouvais esthétiquement intéressante, m'est apparue comme un des lieux de crime ou un des lieux de rencontre nécessaire, la question était de trouver la doc pour savoir de quand ça datait. Alors, il se trouve qu'elle date de 1818, j'ai trouvé ça dans un bouquin, donc on pouvait l'utiliser, la dessiner. Bien sûr, il n'y avait pas de station de métro, il y avait pas, je crois que c'est un hôpital Laennec, je crois qu'il y a derrière, quelque chose comme ça. À l'arrière-plan, on a juste trouvé un dessin, en fait, hein, qui l'a représenté. On va le voir, d'ailleurs, sur la façon de l'utiliser, d'autres intérêts. Alors, en fait, il ne faut pas passer par là. Voilà, par exemple, c'est une des scènes, enfin quelques cases où la fontaine est utilisée, la fontaine du Fella, hein, rue de Sèvres. Bien sûr, il n'y a pas de rue, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de. Alors ça aussi, ça fait partie de l'enquête, je dirais. Comment étaient représentées les rues de Paris en 1820 ? Est-ce qu'il y avait des becs de gaz ? Est-ce qu'il y avait des trottoirs ? Est-ce que les maisons avaient des numéros, etc. C'est essentiel. Si on veut que le flic, on va dire, aille rechercher quelqu'un quelque part, est-ce qu'il peut y aller en disant c'est autant de telle rue ? Bon, donc tous ces petits détails, on trouve ça relativement aisément, à condition bien sûr d'aller dans des bouquins sur l'urbanisme parisien et sur l'évolution de l'urbanisme. On trouve tous ces renseignements-là, mais il faut effectivement les rajouter à une recherche, à l'invention d'une histoire. Souvent, ils conditionnent certains épisodes. Là, c'est le cas, par exemple. Alors, la scène commence sur la page précédente, sur la planche précédente. Le personnage qui est devant est le fameux assistant, on va dire, le jeune qui travaille avec Nivose Rochelle et qui a pisté donc deux personnages qui sont en arrière-plan. Il va les écouter. L'avantage de la fontaine, c'est qu'effectivement, il peut se rapprocher de cette fontaine pour écouter une conversation. Là où on peut pousser le vice, comme je l'avais fait dans cette scène, c'est de se dire, oui, mais est-ce que ça se passe au mois de juillet ? Est-ce que vraiment il avait besoin d'aller s'éponger, etc. Il se trouve qu'en vérifiant la météorologie de ces étés-là, c'est un de ces étés de canicule qu'il y a eu. Et effectivement, quand on dit, on en parle un petit peu avant, qu'il fait très chaud et que c'est hyper insupportable, il faut voir comment ils sont habillés à l'époque. Donc il va se rafraîchir, et c'est normal qu'il aille se rafraîchir parce qu'il faisait effectivement très chaud. Donc on a, dans une scène comme celle-ci, l'avantage de reproduire, on va dire, un décor exotique, si on peut dire, d'une certaine façon, bien que parisien. On peut faire avancer l'intrigue puisqu'il y a une conversation qui permet de piquer effectivement certains renseignements qui seront utiles. Et puis on a aussi de la vie quotidienne. Depuis d'ailleurs sur Paris, l'éditeur, enfin il y avait eu la ville de Paris avait fait service culturel, je sais pas trop, avait fait l'été dernier ou il y a deux ans un petit justement circuit dans Paris de tous les lieux égyptisants. Il y a eu de très très grosses expos hein, sur ce sujet aussi. Il y a de très très beaux catalogues sur le Paris égyptisant, qui sont aussi des sources importantes. Et on peut faire effectivement un circuit comme le font les personnages dans Paris. Alors, un autre exemple. Vous voyez que là, on a l'impression d'être loin de l'aspect policier, mais que le travail de scénariste, il est là quand il s'agit de faire du scénario historique d'une part et policier d'autre part. Ce lieu qu'on a sous les yeux, alors en bas, on va le grossir un peu, ce bassin, ces bassins, enfin cette vue du bassin ici, avec cette sorte de petit banc en cirque, en demi-cirque, existe aux Tuileries. Il y en a même deux. Ça s'appelle un exèdre. Il y a un bassin maintenant, un bassin avec des poissons rouges. Et surtout, ça a l'avantage. Je vais tout de suite montrer si ça veut passer. Bon, je le montrerai après. Ici, au bout de la flèche, on a effectivement des personnages sculptés qui sont des sphinges et non pas des sphinx. C'est le féminin. Donc avec une poitrine féminine. Ces personnages qui sont au bout des deux bancs sculptés m'intéressaient là encore comme décor. La question était de savoir, en ayant vu ça dans le bouquin sur l'égyptologie, enfin l'égyptomanie parisienne, si effectivement ce lieu existait en 1820. Auquel cas, à quoi ça ressemblait et qu'est-ce qu'on pouvait en faire? Est-ce qu'il y avait un bassin, par exemple, ou pas? Alors c'est là où, effectivement, dans un des livres sur les parcs et les jardins de Paris, on trouve ce dessin de ce même lieu. Donc on retrouve, le monument par lui-même, qui n'a pas bougé. Ce qu'on voit surtout, bien sûr, c'est qu'il n'était pas entouré, comme aujourd'hui, de grilles, et encore moins précédé d'un bassin à poisson rouge. C'était réellement un lieu où on pouvait aller s'installer, ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui aux Tuileries, là, quand on est auprès de ce petit bassin. Et puis, on a des dates qui permettent de vérifier ce qui est là-haut. Je crois que c'est précisé dans celui-là ou dans un autre. Que c'est une construction sur dessin de Robespierre pour la Révolution française, sur la fête des lettres suprêmes. Je crois qu'il y a une date quelque part, c'est peut-être pas dans ce document. Mais ça existait bien avant 1820. À partir de là, tout est utilisable. Et notamment, là, on a une vue un peu hivernale des Tuileries de l'époque. Et la statue est restée la même. Il y en a deux, en fait, hein, de ces bassins, parallèlement dans le parc des Tuileries. Même principe. Alors, on va réduire ça. Non, peut-être passer par là. Et voilà. Voilà en plus gros, enfin en gros plan, les fameux, je sais pas comment on appelle ça, les accoudoirs en tout cas, les butées que j'ai photographiées, qu'on a utilisées bien sûr dans la bande dessinée. Le thème de la sphinx va être un des thèmes récurrents dans l'histoire. Donc tous les lieux où il n'y avait pas seulement des sphinx, mais carrément des sphinges, m'intéressaient dans Paris pour cette raison-là. Et l'idée, d'abord du point de vue vocabulaire, c'est un des mots qu'on a utilisé dans un des titres. Sphinx est hyper connu, alors que sphinge paraît toujours un peu inconnu de la plupart des gens. Donc il a un petit caractère mystérieux qui est très intéressant. Et le thème féminin fait partie aussi du sujet. Voilà ce que ça donne en petit extrait dans la séquence où les personnages peuvent venir se balader dans les Tuileries parce qu'ils y viennent aussi pour une autre raison. Pour un autre monument, là aussi, qu'on voit ici sur ces deux cases au-dessus, qui est un autre monument des Tuileries, qui est encore plus ancien. Ce sont d'immenses sculptures qui sont au fond, plus près de la place de la Concorde, qui représentent des fleuves. Celui-là, c'est le Nil. Alors là, on le voit de façon fragmentée, on le voit ailleurs, hein, sur une autre case. Et derrière ce monument, cette sculpture, effectivement, on voit le cadavre dans la deuxième case. On a donc deux lieux dans les Tuileries qui sont des lieux totalement égyptisants, avec cette sculpture sur laquelle on remarque là pour le coup partiellement un sphinx. Et puis, alors l'indication, enfin, il y a une frise qu'on voit peu sur ces cases-là, mais sur les précédentes, on le voit davantage. Donc dans ce même lieu qui est le parc des Tuileries, on pouvait utiliser de façon très documentée et réaliste, vraisemblable, un décor qui serve soit en l'occurrence à trouver effectivement un cadavre, soit les personnages repartent, circulent, passent devant, etc. Ce qui est aussi une autre façon d'enquêter ou de jouer les policiers, c'est que les indices visuels qu'on peut mettre ne peuvent pas être compris par le lecteur à ce moment-là. L'insistance que je mets à vous décrire la sphinge, par exemple, ici, ça n'apparaît quand on lit le premier tome que comme un élément de décor, un point c'est tout. Il n'y a aucune raison à ce moment-là du récit, en tant que lecteur, de savoir que ces décors ont une importance pour comprendre ce que vont être les compagnons de la sphinge, qui est une, on va dire, une sorte d'association, non pas de malfaiteurs, mais je ne vais pas tout dire, qu'on découvre plus loin. Donc petit à petit, à travers les décors, on peut dire que le scénariste place des éléments, des indices, avant même le policier, bien sûr. C'est-à-dire que, alors, le scénariste en sait évidemment plus que le policier, mais quelquefois, si le lecteur peut être perspicace, il peut se dire quand même, cette répétition de lui, etc., ça a forcément un rapport. Il est parallèlement en train de faire la même enquête que le policier. Là, c'est clair que les deux policiers sont à ras d'un détail qui a son importance, mais qu'ils ne peuvent pas le comprendre à ce moment-là. pourtant, c'est au premier plan. C'est là où le travail donc de mise en scène. On parle de scène de crime, mais il y a une mise en scène du crime qui est tout aussi importante. Les policiers vont exploiter une scène de crime. Le scénariste et le dessinateur ou la dessinatrice vont mettre en scène ce crime, comme dans un film bien sûr, mais dans le dessin tout pareil. Non, ça c'est, je sais pas, mais c'est pas mon ordinateur. Je ne répondrai pas à la personne. Alors attendez que j'essaye de retrouver ma petite flèche. Là. Voilà. Hop. Ah, autre aspect très intéressant de la vie parisienne, si on peut dire. Il existe à Paris un quartier. Alors ça m'avait, quand j'avais trouvé ça dans ces descriptifs de la vie, on va dire égyptisante parisienne, il existe un quartier qui s'appelle, qu'on appelait autrefois la foire du Caire. Il existe toujours, on ne l'appelle plus la foire du Caire, il existe la place du Caire. Il existe même ici, alors on voit, c'est pas évident pour vous, il y a écrit passage du Caire. Là. Et à côté, il y a marqué café égyptien. Et en haut, on voit des sculptures sur ce mur qui sont des visages d'Hathor, là, comme au temple de Dendera. C'est une petite place qui existe toujours dans le sentier. Il y a même une rue du Nil, etc. Cet emplacement, cette localisation, était forcément nécessaire à mettre en scène dans une histoire égyptisante, on va dire, sur les quartiers égyptisants parisiens. J'y ai placé on voit en bas à gauche, un marchand d'antiquités. Ça existait déjà dans les années 1820. Et comment ? Alors là, ce qui est intéressant, c'est de se dire jusqu'où on peut inventer tout en utilisant soit la matière existante, soit en la trafiquant un peu. Est-ce qu'on peut broder ? Bon, sur la première case, par exemple, le café égyptien existe bien, dès 1804, etc. Le passage du Caire existe, et il existe encore. Par contre, les fameuses sculptures qui sont sur ce mur, elles étaient intéressantes à mettre en scène, mais on n'a pas trop insisté, c'est en limite d'ailleurs de cases, parce que dans certains livres, ils mettent qu'elles datent de 1820, mais dans d'autres de 1826, c'est-à-dire qu'il n'est pas sûr qu'en 1820, elles existaient vraiment. Donc on n'a pas insisté sur cet aspect du décor, mais en même temps, on ne s'est pas privé quand même de le mettre, parce que ça avait son intérêt documentaire. Parallèlement, on peut complètement inventer des lieux, au marché des pharaons, c'est évidemment un lieu non complètement inventé, pour la boutique. Par contre, des boutiques de brocanteurs, enfin à l'époque c'est pas des brocanteurs, d'antiquaires, il y en avait déjà pas mal. Et là on rentre dans l'une d'elles. Autre lieu, alors on a vu tout à l'heure depuis dans les précédents exemples des lieux qui existent encore. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui effectivement faire une visite de Paris sous l'angle égyptisant. Avec en arrière-plan cette campagne de Bonaparte en Égypte et puis surtout le travail des scientifiques en Égypte, avant et après Bonaparte. Là, on a un autre décor qui est surprenant, c'est-à-dire que quand on lit la bande dessinée, cette énorme sculpture en forme d'éléphant, si on connaît Paris, on se dit que ça n'existe pas. Et effectivement, ça n'existe plus. Et en même temps, ça n'a pas totalement existé. Napoléon avait essayé de faire une sorte d'immense statue en l'honneur de ses victoires. Et l'éléphant représentait ça pour lui. Et comme toute statue, on va dire, imposante, on faisait d'abord un plâtre. C'est-à-dire que, je suis en train de chercher le nom de la place, avant de dire des bêtises, c'est hyper connu, hein, c'est juste le mot qui m'échappe, la place de la Bastille. Place de la Bastille, donc en plein centre, à la place actuelle, on va dire du centre de la place, il y avait donc cette énorme statue qui a d'abord été un plâtre, un énorme plâtre vide, qui a été l'étape préparatoire d'une future statue colossale. Victor Hugo y place une scène des Misérables avec Gavroche dans cette statue qui a existé plusieurs années, qui existait en 1820 et qui s'est décrépite petit à petit, où il y avait des rats, etc., ce que raconte d'ailleurs Victor Hugo. Alors, c'était un lieu qui en soi était intéressant. La question donc était de savoir si ça existait. C'est pas seulement égyptisant, mais comme la campagne d'Égypte faisait partie pour Bonaparte, que je n'ai pas forcément, c'est pas un personnage que j'adore, hein, loin de là. J'ai montré les. Ah, oui, il y a des gens qui se connectent. Hein, je ne sais pas ce qu'on va faire. Voilà. Ça doit être un indice de satisfaction, je ne sais pas. Alors, voilà quelques documents de ce, là déjà fort décrépit, hein, de cette maquette, comme on disait à l'époque, vous voyez, érigée en 1813. Donc, de bouquin en bouquin, et là, c'est différents documents qui servent à la dessinatrice. Alors, ça, c'est le projet tel qu'il aurait dû être, tel que ça n'a jamais été, fontaine avec l'eau, etc. Et ça, c'est la version, malheureusement, qui donnait lieu à des dessins d'humour sur cet éléphant qui se détruisait petit à petit, qui devenait une sorte de terrain vague à lui tout seul. C'est le genre de lieu, effectivement, qui a disparu, mais qui a existé, qui pouvait servir, d'un point de vue exotique, à servir de décor. Tout à l'heure, en parlant d'Agatha Christie, je vous dirais qu'une des difficultés d'Agatha Christie, d'adapter Agatha Christie, c'est le problème des extérieurs. Beaucoup de choses sont en intérieur. S'il y a une nécessité, c'est comme au cinéma, c'est celle de pouvoir varier les lieux. Et je dirais même, de façon encore plus importante en bande dessinée, de case en case, il faut essayer de faire en sorte que les décors soient systématiquement différents, pris sous des angles différents, qu'on apporte visuellement du spectacle. Et pas forcément du spectacle gratuit, inutile, il faut qu'il ait du sens. Le but du jeu, c'est que tout ça, effectivement, construise petit à petit une intrigue qui est policière. Tous ces éléments-là construisent du sens pour le lecteur. Pour l'enquêteur aussi, puisque, par exemple, sur cette place, j'invente une librairie qui s'appelle la librairie de l'éléphant, qui, a priori, n'existait pas, ou ce serait le hasard, mais ça aurait pu tout à fait se faire. Donc, avec un lieu qui existe, on peut inventer un lieu qui n'existe pas, et tout ça se donne, finalement, une vérité supplémentaire. Ça s'étoffe. Alors, sur la partie, on va dire, documentaire, enfin, on va s'arrêter là. L'autre aspect du récit policier en bande dessinée, et là où les contraintes du récit policier sont très différentes à la fois du cinéma, parce que ce qu'on a vu là, on pourrait, même si c'est difficile à mettre en œuvre au cinéma, on peut utiliser des décors réels. Bon, la fontaine du Fela, ça pose pas de problème, à condition de masquer les trottoirs, enfin, etc. Il y a plein de choses qu'il va falloir masquer. Les décors, l'arrière-plan, les bâtiments qui n'existaient pas. En dessin, c'est beaucoup plus simple. On peut trier, nettoyer, rajouter. On dit toujours que la bande dessinée peut faire de très très grands spectacles parce que précisément il n'y a pas besoin de grands décors, de grands budgets. Il suffit d'un bon dessinateur et d'un bon coloriste et à la rigueur un bon documentaliste pour trouver les bons documents et puis c'est tout. Enfin c'est tout, c'est une façon de parler. C'est vrai que le cinéma de ce point de vue là est beaucoup plus piégé, on va dire. Le roman c'est différent puisqu'il n'y a pas l'aspect visuel, on peut effectivement mettre en scène tous ces lieux-là et la seule véracité des dates suffira. Après, le reste, c'est de la description. Alors, l'aspect donc, qui est propre à la bande dessinée, par rapport au roman, par rapport au cinéma, ça va être son découpage. Découpage case à case, dans chaque planche, mais découpage planche par planche. Ce rythme, et c'est là où le récit policier en bande dessinée, une des contraintes, c'est effectivement de rythmer ce travail, enfin cette enquête, que ce soit pas seulement une histoire qui se déroule, qui se dévide, mais que c'est une histoire effectivement qui doit se dérouler au rythme des planches, avec les fameux bas de planches qui donnent des temps forts, qui sont à la fois soit des moments d'aiguillage, d'interrogation, de doute, etc. Alors, je vais prendre quelques exemples dans les trois albums. Hop, on va venir par là. Le principe d'une planche, outre bien sûr ce qui s'y développe, c'est effectivement d'avoir un point, on va dire, stratégique du point de vue de la narration, c'est la chute de page. À cet endroit-là, on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ou alors on fait, je dirais, de la mauvaise bande dessinée parce qu'on n'utilise pas un des lieux stratégiques qui est celui où on va tourner, où on doit donner envie de tourner la page. Qu'on soit sur une page paire ou une page impaire, il va falloir de toute façon changer de page. C'est donc un lieu qu'on doit utiliser pour rythmer une histoire, soit, comme c'est le cas ici, alors on n'a pas les textes, mais le personnage profère une menace vis-à-vis de la femme qui est au premier plan, qui est une Nubienne d'origine. Une menace, effectivement, dans un bas de page, au moment où on est contraint à la tourner, je veux dire, c'est très important, même si finalement derrière, on est déjà dans un autre lieu et qu'on ne sait pas si cette menace va être mise à exécution. Ça, c'est une des contraintes du récit policier en bande dessinée, une des contraintes, et je dirais même un des atouts, parce qu'effectivement, c'est le côté feuilletonesque qu'on peut retrouver grâce à ce découpage. Un feuilleton qui est de case en case, mais qui est vraiment de planche en planche. C'est la partie, je dirais, la plus... c'est la partie la plus compliquée à structurer, puisqu'effectivement, est-ce qu'il y a matière systématiquement en bas de page à faire quelque chose qui interpelle le lecteur ? C'est là où quelquefois il faut condenser ou supprimer des choses qui au milieu se délayent un petit peu trop au profit de cette case finale. Elles sont toutes petites tout d'un coup. Voilà. Autre lieu, voilà, on voit à peu près une autre planche. Autre principe, on voit la construction, un plan d'ensemble au début, petit à petit on va vers des visages. C'est typiquement aussi des planches d'entrée, quelquefois dans certaines séquences. Le principe souvent des chutes de planches, ça va être de jouer sur les regards. Le roman policier, le récit policier, pas le roman, c'est beaucoup plus délicat, mais le récit visuel policier, que ce soit au cinéma ou en bande dessinée, va beaucoup jouer sur les regards, sur les sous-entendus des regards. Là, dans ce bas de page, sans les textes, on ne peut pas savoir ce qu'imagine le personnage, c'est l'enquêteur ici, et ni le rapport qu'il y a avec les deux personnages précédents, qui est en fait un autre fil de l'histoire. Cette scène-là, en fait, est basée non pas sur une menace ou sur une information, on va dire, essentielle, mais juste sur un jeu de pouvoir entre les deux personnages, parce que précisément, dans cette bulle ici, Hector fait la remarque à son chef qu'il s'intéresse tout d'un coup, qu'il se cultive, ce qui n'est pas évidemment pour lui plaire, d'où le regard effectivement massacreur. C'est lui qui pourrait devenir l'assassin. En tout cas, c'est un regard assassin. Voilà. Je prends encore un autre des exemples sur ce principe des chutes de pages qui sont essentielles, je veux dire, pratiquement systématiquement à exploiter. Alors, à la fois au niveau de la structure, c'est un autre travail qui ne rentre pas uniquement dans dans le sujet de la BD policière, mais dans le fait d'ouvrir la case jusqu'au bord, en bord perdu, etc. Bon, ça, ce sont d'autres aspects, on va dire, techniques. Par contre, en bas de page, avoir ce personnage qui tire la leçon de ce qu'il s'est dit entre lui et quelqu'un d'autre juste au-dessus et qui fait une remarque, c'est effectivement une place stratégique. Il est en train de penser, il prend son temps, il est en train de prendre le frais sur le Nil, sur son bateau, et il se dit à ce moment-là, quand même, c'est étonnant, il parle d'une gravure qu'il a vue, pas celle-ci, mais une dans la page précédente, et qu'il s'étonne d'avoir vue dans cette masure, on peut dire, dans cet endroit. Bon. À ce moment-là, non seulement la case prend son temps, je dirais, elle suspend son vol, pour le coup, là, il y a un moment de contemplation qu'on peut avoir avec le personnage, et en même temps, il y a un moment de réflexion, c'est-à-dire qu'on casse le rythme, on se repose, et en même temps, ça relance l'intrigue. Alors, c'est le même principe, même principe, oui et non. C'est-à-dire qu'on a aussi la nécessité de faire du documentaire parallèlement à un récit policier. On est en Égypte, et c'est vrai que ce serait idiot de se priver de la vie quotidienne, des quartiers, etc. Là aussi, il y a tout un travail sur la vie au Caire. Là, on est au Caire. À travers les tableaux orientalistes, à travers les récits de voyage, c'est pas la documentation qui manque, notamment au début du 19e siècle, autant avec les dessins de Vivant Denon qu'il a pris sur le vif en 1898 que par d'autres voyageurs qui ont foulé l'Égypte au début du 19e et même après. Donc là, la documentation est d'ailleurs plus simple à faire qu'à Paris. Régulièrement, on se dit, oui, mais je sais pas, le Caire, etc., est-ce qu'il faut y aller ? Bon, on peut, enfin, nous, on y est allé, mais c'est même pas indispensable. Par contre, à Paris, on est coincé par la nécessité de trouver les dates des monuments, ce qu'étaient les lieux à l'époque, etc. Avec l'idée en plus que les lecteurs parisiens, qui sont quand même nombreux, en fréquentation, c'est un cinquième de la population, donc on peut considérer qu'un lecteur sur cinq peut être un parisien et que lui va reconnaître les lieux. Pour le Caire ou pour Alexandrie, le problème est complètement différent. On peut se permettre des approximations. Pour une autre raison également, c'est que la plupart des lieux au Caire, ou à part les monuments mamelouks, tous les lieux ont disparu. Il reste de l'époque de Bonaparte deux maisons qui sont actuellement reconstruites, reconstituées, qui ont été habitées par des scientifiques et par Bonaparte. Hein, deux énormes maisons, enfin des palais, comme on disait. Il n'y en a que deux. Tout le reste sont des ruelles. Donc des ruelles On peut les inventer, les réinventer. Elles sont toutes justes, puisqu'aucune n'était... Il n'y a pas de document précis, de plan précis. Il y a quand même de grands axes qu'on respecte dans, un peu plus loin dans l'album. Alors, dernière chose pour Pyramide, l'importance, c'est encore un aspect bien sûr policier. On est un peu dans le même travail, on va dire, que sur l'affiche. Une couverture, les couvertures d'album, c'est un moment essentiel pour... Alors, il y a un autre point, il y a la couverture, mais il y a aussi la fin de l'album. C'est une histoire en trois tomes, c'est comme dans le feuilleton, il faut que les fins d'album laissent le lecteur sur leur fin et en même temps sur une mauvaise interprétation. Il faut qu'ils se disent « Ah, ça s'aiguille vers tel genre d'histoire ou tel genre de coupable, etc. » Donc, l'enjeu, c'est là où on est vicieux quand on écrit l'histoire, l'enjeu, c'est effectivement de le tromper, le lecteur, c'est clair. Si on ne l'a pas trompé, c'est qu'on sait, on a raté un peu notre coup. La fin de la première histoire, logiquement, le lecteur se dit qu'on va vers quelque chose un peu ésotérique dans ce domaine-là. Et l'important est que tout le pousse à le croire. À la fin du deuxième tome, au contraire, là, le lecteur s'est dit non, je me suis fait avoir. C'est clairement une histoire politique. On est dans un contexte politique. Il y a toute une histoire sur les enjeux en 1820, etc. En France. C'est une histoire politique. En fait, les responsables sont forcément dans ce milieu-là. Bon, et tout prouvera dans le troisième tome que c'est ni la version de tome 1, ni la version du tome 2. C'est encore autre chose. Même chose pour les couvertures. Alors la couverture, là, c'est réellement un élément visuel qui est très difficile à non pas à dessiner, mais à faut choisir le motif. Et ça, c'est le plus difficile de réussir une couverture. Ça ne veut pas dire que nos couvertures sont réussies, hein, ce n'est pas la question. Là, par exemple, sur le premier tome, la main, en fait, c'est celle de l'inspecteur. Ça correspond à une toute petite scène dans le premier tome où Niveaus Rochelle rencontre Vivant Denon. On aurait pu parler aussi de ça. J'en parlais, tiens, juste après les couvertures. Première couverture, donc, une main au-dessus d'un objet, on va dire, égyptisant. Est-ce un vol? Est-ce que ça va être une histoire, justement, de trafic d'objets? On ne sait pas. Bon. C'est en soi à la fois un indice et en même temps une fausse piste. Sur la deuxième couverture, on va arriver à peu près à la rentrée, voilà. Hop. Deuxième couverture, personnage féminin, mais les yeux sont volontairement cachés dans le haut de la couverture. Est-ce que la main est une menace? Est-ce que on ne sait pas. Bon. Mais l'histoire devient plus féminine, notamment le sous-titre, la sphinge. Est-ce que la sphinge correspond à ce personnage? Quel est ce surnom? Là encore, des fausses pistes dès la couverture. Mais en même temps, il ne faut pas que les éléments soient complètement à côté de l'histoire. Il ne s'agit pas de faire croire à une histoire. On voit ça des fois sur certaines couvertures, et la couverture, on se dit, mais quel rapport avec l'histoire? On n'arrive même pas à retrouver la séquence dont le dessin, entre guillemets, est tiré. Et puis, troisième couverture, là, elle ne veut pas passer dès que c'est... Si, quand même, hop, hop, on va essayer de... Voilà. Troisième couverture. Ah oui, c'est que le dessin sans le titre, tiens d'ailleurs. Bon, on va y arriver. Allez, c'est comme ça. Troisième couverture, plus sensuelle, on va dire, c'est clair. Est-ce que c'est le thème essentiel de l'histoire? On n'en sait rien. En tout cas, dès la couverture, on n'en sait encore rien. Il faut avoir lu le troisième tome. Par contre, il y a la menace ouverte de l'arme égyptienne, pour le coup, et même de l'antiquité égyptienne, au premier plan, qui donne aussi une indication. Est-ce que cette indication va tenir la route? On le découvre après. Je parlais à l'instant des personnages inventés ou des personnages réels. Dans cette histoire, effectivement, il y a un mélange de personnages réels. J'ai parlé de Vivant Denon, j'ai parlé de Bonaparte. C'est essentiellement les... Et puis il y en aura un autre dans le tome 2, Drovetti, qui est le consul à Alexandrie. Ce sont des personnages qui ont réellement existé. Et donc il faut vérifier qu'ils étaient bien là où on les attend, justement. Pour Drovetti, qui est consul à Alexandrie, il va être consul jusqu'en 1820 et il va reprendre à la fin de 1821, donc on est dans le deuxième tome, et dans le troisième tome, il doit intervenir, et il fallait vérifier, enfin moi j'avais besoin de vérifier qu'il était effectivement là, à Alexandrie, pour la suite de l'histoire, ce qui était le cas, donc on pouvait l'utiliser, parce que le personnage est intéressant, il y a des lettres, etc. Tout ça se vérifie, il faut aller simplement chercher les bonnes sources. Et puis il y a les personnages complètement inventés, l'inspecteur, son acolyte, etc. Et puis il y a des personnages qui sont trafiqués, on va dire. Par exemple, et c'est une histoire qui a inspiré pas mal de gens. Bonaparte avait pris pour maîtresse une femme, quelques femmes avaient suivi, hein, les soldats, il y en avait très très peu. Sur les milliers d'hommes, il y avait 300 femmes seulement qui sont parties, donc elles étaient très recherchées, très convoitées, on va dire. L'une d'entre elles, donc, qui s'appelait Pauline, est devenue la maîtresse de Bonaparte. Et son mari soldat, qui s'appelait Fourès, n'a pu que constater effectivement la désertion, on va dire, de son épouse. Et cette femme qui, pendant un temps, va devenir la maîtresse de Bonaparte, je trouvais ça intéressant. Après, il va la laisser tomber. C'est une histoire qui devient très vite sordide. Mais cette femme m'intéressait. Je l'ai utilisée, j'ai transformé son nom. Elle ne s'appelle pas Pauline, mais Lynn. Le nom de famille ne sera pas Fourès, mais Fouras, pour faire écho. Et de façon à ce que, justement, cette femme ait un rôle important dans l'histoire. Donc, ce n'est pas tout à fait la femme réelle, mais c'est quelque part une femme ayant existé. Elle n'est pas assez connue pour que ça, comment dire, ça casse l'effet de réel, mais elle rajoute quand même quelque part une sensibilité supplémentaire à l'histoire. Zweig a écrit un bouquin qui raconte ça sous forme théâtrale avec Pauline Fourès. De la même façon, sur Survivant de nom, Solaire, ça fait un bouquin qui s'appelle Survivant de nom. Ça oblige à lire plein de choses comme ça, ce qui est amusant. Et puis on en retire après des éléments utiles ou pas. Alors, ça on a vu, on est arrivé à la fin. Oui, là, on va faire je vais ouvrir le deuxième dossier. Si on arrive, voilà, ouvert. Alors, là, je vais vous parler de bande dessinée dont l'album n'est pas encore sorti, donc, mais vous allez voir quand même des éléments, pour s'intéresser à un autre type de travail du récit policier, mais quand il s'agit d'adapter un roman qui existe déjà. C'est là où les contraintes de la bande dessinée sont beaucoup plus apparentes. On est dans un texte romanesque qui ne compte pas ses pages. Un roman d'Agatha Christie, la pagination est variable. Une bande dessinée, c'est la plupart du temps des albums de 46 planches, pour des raisons techniques, économiques, etc. Quand c'est une histoire en 3 tomes, c'est 3 fois 46 planches. Sauf maintenant, il y a de nouveaux standards, on va dire, de publication. Mais globalement, ça reste encore la distance qu'imposent les éditeurs. C'est rarement l'auteur qui choisit de faire 46 pages plutôt que 38 pour des raisons économiques de pliage, de papier, etc. On arrive à ça. Alors mettre un Agatha Christie dans un bouquin de 46 pages, quand ça en fait 200 au départ, c'est beaucoup plus casse-tête. Pour deux ou trois raisons au moins, c'est casse-tête. Et c'est là où on voit que le récit policier romanesque et le récit policier BD ne fonctionnent pas de la même façon. Il y a là donc cette liberté de pagination. Là, la contrainte est claire, il va falloir raconter, réduire, élaguer pour que ça rentre en 46 pages. Et en même temps, il ne faut pas raconter n'importe quoi, il ne faut pas déstructurer complètement l'enquête d'Hercule Poirot. Il va falloir supprimer des personnages. Quand on a lu un Agatha Christie, on sait que tout fonctionne, tout compte, que ce sont des réseaux d'indices et de chaînages d'indices qui sont hyper compliqués. Par exemple, dans cette histoire, il y a un couple d'Australiens qui s'appelle les Croft, qui est en fait une sorte de fausses pistes, et on va se rendre compte, arrivé à je ne sais plus quel chapitre, en tout cas 100 pages plus loin, qu'en fait ils n'ont aucun intérêt, aucune fonction, si ce n'est de perdre le lecteur, à la fois d'aiguiller bien sûr Poirot sur une mauvaise piste, mais également le lecteur. Donc quand on est arrivé à couper une branche dont on se rend compte finalement qu'elle ne pourra pas gêner, on essaie de la couper, de façon à gagner en nombre de personnages. Un autre aspect qui est totalement différent du roman, c'est les dialogues. Agatha Christie, ça parle beaucoup parce que ça interroge constamment, ça fait parler les gens, et on ne peut pas dans une bande dessinée parler, sans quoi d'ailleurs ce serait du Jacques Martin ou du Jacobs, mais ça ne serait plus de la bande dessinée d'aujourd'hui. Donc il faut là encore trouver un équilibre dans les dialogues beaucoup plus économique, on va dire. Et puis il y a ce fameux problème dont je parlais tout à l'heure, le jeu entre les lieux extérieurs et les lieux intérieurs, pouvoir systématiquement alterner. Et il ne faut pas non plus que ce soit les mêmes lieux intérieurs et les mêmes lieux extérieurs, parce que visuellement, il y a une fatigue. Il faut là encore, non pas zapper bêtement, mais fournir à l'œil du lecteur, on va dire, du plaisir visuel varié. Il faut diversifier. Alors, autre principe qui est très très différent, si je suis sur la bonne page, par exemple, voilà, ça ce sera la première planche. Voilà quelque chose qui n'existe pas dans le roman d'Agatha Christie, c'est l'accroche. Un peu le principe qu'on trouve bien sûr dans des feuilletons américains, dans des films américains, etc., de commencer par un fait important, quelque chose qui interpelle. Ici, une voiture qui sort de la route, etc., une femme, bon, accident, qui est-elle? Quel accident? Qu'est-ce qui se passe après? On ne sait pas. Cet accident, il est raconté, il existe effectivement hein, dans le roman d'Agatha Christie, mais il est raconté au bout de la 40e ou 50e page du roman. Autre principe, on rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qui est particulier à la bande dessinée, ça va être de pouvoir utiliser ce bas de planche, et c'est la première page en plus, celle qu'on va évidemment tourner. Il ne faut pas, dès la première planche, perdre son lecteur en route. Donc, il est important, dès la première planche, de l'intriguer, au sens propre, de créer une intrigue. Et là, le personnage d'Hercule Poirot, fait un commentaire qui semble directement lié à ce qu'on vient de voir. Aucun doute, c'est un accident. Et en principe, on reconnaît Hercule Poirot, puisque c'est un personnage qui, esthétiquement, dans cette série d'adaptations, a forcément à peu près la même typologie. D'abord, parce qu'il est décrit par Agatha Christie. Et puis, il y a toute une série d'albums avec différents dessinateurs. Mais le personnage garde une cohérence, on va dire, une charte graphique. Bon. Donc on peut le reconnaître, on sait que de toute façon qu'on est dans un Agatha Christie, si on a ouvert l'album, il y aura un titre, etc., on sait où on est. On sait donc que c'est Hercule Poirot. Et on sait aussi que forcément, en tant qu'enquêteur, s'il dit que c'est un accident, c'est qu'il a raison, c'est un accident. En tant que lecteur, on va associer le haut de la page et le bas, c'est volontaire, hein, c'est la structure qui veut ça, alors que quand on va tourner la page, on va se rendre compte qu'il parle d'un autre accident et de quelqu'un d'autre, et que du coup, on ne sait pas quelle est la personne dont on vient de voir l'accident. On le saura plus loin. Ça, c'est là encore un mécanisme qui va permettre de capter l'attention du lecteur et en même temps de le fourvoyer complètement. Alors, attendez que je revienne. Voilà. Je ne sais plus ce que j'avais mis après. Oui, de la même façon... Non. On va les grossir par là. Je vais vous montrer les... Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le storyboard, c'est-à-dire le découpage crayonné. Tout l'album existe de cette façon-là. Je vous montrerai ça pour ceux que ça intéresse tout à l'heure, s'ils veulent voir le découpage, les feuilles, comment le scénario est présenté ou les étapes de travail. Et là, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est le... On est dans les dernières planches de l'album. Alors, planches crayonnées, hein, ce n'est pas les planches définitives, c'est du brouillon, on va dire. De la distribution faite entre le scénario et qui déjà indique des cases, etc. Et puis le dessin qu'imagine le dessinateur, le découpage, la mise en page, etc. On va s'apercevoir en regardant simplement visuellement hein, les bas de page. On est à la page 42, il y en a 46. On est à la fin de l'album et forcément, comme dans un Agatha Christie, il faut repousser jusqu'au dernier moment la découverte de l'assassin. Dans les Agatha Christie, il y a plusieurs étapes. Il y a systématiquement des moments où on se dit, où il se dit, ah, je sais qui c'est, etc. Et puis non, c'est pas, c'est un peu plus loin. Ah oui, ce coup-ci, on sait, et c'est toujours pas ça, etc. Et on arrive vraiment à la fin à rebondir, alors avec toutes sortes d'explications, sur le dernier coupable, le coupable réel. Alors, le principe du découpage, voilà, on va commencer avec la page 43. On retrouve, vous voyez, on est à la 43e page, il se passe encore des choses. Dans la bande dessinée, on est obligé là aussi de les reporter le plus loin possible. Rien qu'en regardant sur cette page-là, même si ce n'est pas du dessin du grand art, le fait, effectivement, des personnages sont autour d'une table, c'est un moment où Hercule Poirot a réuni tout le monde pour dire, en gros, je vais vous expliquer qui est le coupable. Et à ce moment-là, alors que forcément, on se dit que le personnage, le coupable, il est dans l'assemblée, il y a à l'extérieur un coup de feu. Et on est en bas de la page 43, et du coup, ça relance l'intrigue policière. On se dit, le lecteur se dit, fort logiquement, que du coup, le coupable, il n'est pas dedans, il doit être dehors. Donc, ils sont en train de se tromper. Je ne vous dirai pas hein, qui est le coupable. Ça sortira. Ou alors, si, vous pouvez le lire, c'est La Maison du Péril, hein, de Agatha Christie, l'adaptation de La Maison du Péril. Alors, attendez, on va essayer. Hop. Même principe. Alors, page 40. Logiquement, c'est la 44. Il y a un corps, etc. Quelqu'un qui parle, qui va avouer des choses. Bon, on est à la 44 et est-ce que celui qui a été assassiné ou est-ce qu'il va dire des choses importantes? Alors, on va essayer d'avancer. On est à la page 45, c'est-à-dire avant-dernière page. Et c'est là où, alors là, ça devient un travail d'horloger, là, pour le coup, d'arriver à maintenir jusqu'au bout la pression, tout en ne donnant pas, effectivement, les informations. Vous voyez, dans cette dernière case, on voit que le personnage, c'est une femme, découvre dans un manteau, je crois, un pistolet, etc. Et du coup, là encore, ça va remettre en cause quelque chose, des choses qui ont été dites juste avant. Il y avait des certitudes, et la dernière case de l'avant-dernière planche va permettre de reconduire encore le mystère. Et puis, bien sûr, je crois que la dernière planche ne vous dira pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas les textes. Donc vous pouvez le lire, voilà, on est. Alors les bulles ne seront pas distribuées comme ça, etc. Il y a des choses qui vont changer. Mais réellement, le nœud ou la fin de l'histoire sera effectivement totalement indiquée là dans la page 46. Voilà un type de contrainte liée à une bande dessinée en 46 planches, que le roman, évidemment, du tout, ou même le cinéma, on peut dire que c'est pareil, les 5 dernières minutes, hein, cette fameux principe. Mais là, c'est carrément la dernière page, les 5 dernières cases. Hein, c'est un peu de choses près ce qu'on peut dire. Autre chose, alors très rapidement quand même, non c'est bon, pas trop long. L'autre souci qu'on peut avoir, c'est que dans un roman, si on nous dit qu'une balle est tombée, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, tout près de personnages et qu'on va la retrouver par terre, etc. Il y a des choses qu'on peut indiquer de façon très allusive dans un texte, mais qui visuellement devront être beaucoup plus réalistes. On a ici par exemple, alors ça c'est une première version. Là, pour le coup, c'était censé représenter une balle qui tombe, elle fait toc, elle rebondit. Ça intrigue Poirot qui va aller la chercher, etc. Et cette scène de cette balle qui rebondit ne me plaisait pas. Donc, j'avais expliqué en long et en large au dessinateur comment la balle pouvait arriver. Donc, voilà, cette balle doit arriver, etc. Donc, ça, c'est ce que je lui ai envoyé en redécrivant case par case comment ça doit fonctionner pour que ce soit réaliste. Et du coup, alors je ne vous laisse pas lire en détail, il faut donc ajouter, etc. Bon, là, on est dans des indications de décor. Mais là, du coup, on est presque le policier qui va... Enfin, il faut recréer, effectivement, c'est une scène importante, enfin, un détail important. Et du coup, le dessinateur va réimaginer une mise en scène en tenant compte des commentaires. La balle, on ne la voit pas bien ici, mais enfin, elle ricoche sur ce haut de mur, ici, là. Et c'est parce qu'elle ricoche effectivement, on peut la retrouver au sol dans les cases qui suivent. Donc la mise en scène de la scène du crime, là il n'y a pas de crime, mais il devrait y avoir un crime. Sauf que c'est un faux crime, en fait c'est une mise en scène. Nous on met en scène en tant que scénariste, mais dans le roman, le personnage qui a tiré a également fait une mise en scène. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de tuer, mais de faire croire que, etc. Donc on est dans la mise en scène de la mise en scène d'un crime. Ça devient compliqué. On va s'arrêter là. Et d'ailleurs, pour finir, juste pour vous montrer, oui, pour finir sur des couleurs, quelque chose d'un petit peu plus, pour le coup. Ah, on va essayer, voilà. Voilà, ça c'est une des pages, c'est la 8. Mise en couleur, là aussi, on pourrait parler de cet aspect-là au niveau du récit policier. Tout pareil pour Pyramide, où il y a une coloriste également. Tout le travail de la couleur. Là, en tant que scénariste, on ne la maîtrise pas toujours, la couleur, malheureusement. Autant on peut travailler avec le dessinateur ou la dessinatrice, là c'est un dessinateur, hein. Autant on peut travailler sur la mise en scène, la réaction, enfin, les visages, plein de choses, on peut discuter très longtemps. De la même façon que le dessinateur peut discuter de certains dialogues, de certains textes, etc. La mise en couleur, quand elle est faite par quelqu'un d'autre, qui n'est pas forcément proche, c'est beaucoup plus délicat, parce que d'abord c'est des métiers un peu sous-payés et que c'est un peu plus difficile. Cela dit, c'est pas vilain. Ce sera en principe ce coloriste qui devrait faire l'album. Voilà. Là, il y a quelques planches qui ont été mises, ce sont des essais. C'est-à-dire que ça ressemblera peut-être pas forcément à ça, mais ça, c'est pas trop mal. Pour l'esprit, un peu ligne claire, etc., c'est dans ça correspond à une série, donc il y a un peu le même look, on peut dire, hein, volontairement. Voilà, on peut s'arrêter sur ces commentaires-là. Et si vous avez des questions, on peut les commencer là. Ouais. Ce qui me paraissait important, c'était effectivement d'insister sur le côté construction, reconstruction. On parle beaucoup de la scène du crime. C'est vrai que le policier travaille à partir de ce qui est forcément, on va dire, au sol, enfin, sous ses yeux, mais c'est pas lui qui a construit. Donc il faut qu'il arrive à reconstruire ce que d'autres ont construit, mais le scénariste ou le romancier, en fait, est le premier à imaginer des scènes de crime, on va dire. Voilà. Tout à l'heure, par exemple, pour Pyramide, dans le premier tome, on voit effectivement il y a un meurtre, enfin le premier mort se trouve au Père Lachaise. Le Père Lachaise existait en 1820, il a été ouvert en 1804. Là aussi, ce genre de choses qu'on vérifie, savoir si on pouvait utiliser certains lieux. Il y a une tombe intéressante au Père Lachaise qui est celle de Monge, qui est en grande partie enterrée maintenant, enfin le bas de la tombe est enterré. C'est pareil, en recherchant dans de la doc, on s'aperçoit que la tombe, on la voyait beaucoup plus. Il y a 2 mètres d'écart avec ce qu'on voit aujourd'hui, elle existe toujours la tombe. Et donc, elle a été utilisée dès le début du premier tome. Et je disais ça pour dire quoi ? J'ai oublié. Zut, attends, faut que je m'arrête là. C'est un signe. Ah oui, j'ai oublié mon idée. Elle va me revenir après.
C'est pas grave. Merci déjà. Je ne sais pas si dans la subsistance, il y a des questions. Ça donne, on a très envie de lire les BD maintenant, mais est-ce que. Non, il n'y a pas de remarques, tout est clair. Attends, je vais venir avec toi, c'est comme non.
Je me demandais si vous parliez de recherche pour les lieux et tout, mais est-ce que pour tout ce qui concerne l'enquête, c'est seulement vous inspirer des livres policiers ou même des séries, par exemple ? Ou alors est-ce que c'est vraiment des trucs très pointus ?
Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par pointu. Pour la série Pyramide, c'est inspiré de rien. On va dire que tout est inventé, sauf tout ce que je vous ai dit sur les lieux, sur les décors, sur le contexte historique, etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours des moments où on essaye, après avoir inventé... Il marche encore ? Oui. Après avoir... l'idée de départ, c'était effectivement d'imaginer que plusieurs meurtres, on va dire c'est banal comme idée de départ, plusieurs cadavres à des endroits différents de Paris, avec des éléments qui ont l'air identiques, suppose effectivement une enquête qui rassemble, qui essaye de trouver quel est le point qui les relie, mais en même temps que ce point ne se trouve pas, ce qui les relie ne se trouve pas sur place. Et l'idée, quand je décrivais l'histoire, c'était de se dire que le coupable, pour ceux qui ont lu l'histoire, ça a un sens, si on le dit comme ça, ça n'en a pas, mais le coupable n'existe pas. Quelque part, c'est quelqu'un qui n'existe plus. Alors, et en même temps, il existe encore. Donc là, voilà, et c'est exactement ça, pourtant. Donc ça, c'est inventé. C'est pour ça que le travail est très différent avec Agatha Christie, où je n'invente rien. Il faut que je réinvente à partir des éléments qu'elle a racontés. Donc il faut restructurer un travail qui est structuré différemment. Restructurer parce qu'il faut raccourcir, éliminer des choses, et en même temps le rythmer. La partie essentielle dans le récit policier en bande dessinée, c'est cette notion de rythme qui est liée bien sûr à l'histoire qu'on raconte, mais qui est liée aux contraintes d'une page, d'une planche, d'une série de planches, et au nombre de planches. C'est vrai qu'il y a plus de liberté sur 3 tomes, sur un cycle. Le pyramide, le cycle, et c'est réellement ce qu'on appelle un cycle, avec effectivement un phénomène de rythme à la fois intérieur à chaque album et en même temps d'album en album. Bon. Donc on est beaucoup plus souple, on peut se permettre des fausses pistes et même de s'éloigner très largement en fonction d'envie, de thèmes qu'on veut traiter, etc. Là, il n'y a pas moyen. Mais en même temps, c'est passionnant à faire. C'est-à-dire que ça oblige d'abord à connaître le roman par cœur, parce qu'il faut le lire plusieurs fois, et essayer de reconstruire, déconstruire, supprimer, etc., sans se perdre en route et sans faire d'erreur. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fin, l'enquête, elle tienne. Quoi. Est-ce que ça répond ? Pas tout à fait. Alors, c'était quoi le côté pointu ?
Non, en fait, c'est ma question qui n'était pas claire, je pense.
J'ai pas voulu le dire.
Oui. Mais en fait, oui, c'est... Est-ce que la façon dont l'enquête est menée, est-ce que vous vous êtes vraiment informé auprès d'inspecteurs et tout, ou alors c'est vraiment du...
Non. Alors, d'abord, parce que je ne voulais pas un policier qui soit traditionnel. En 1820, ce que je disais tout à l'heure, c'est que de toute façon, le côté enquête scientifique, ça n'existe pas. Ça se fait de façon beaucoup plus intuitive, et on pourrait presque dire même un peu olé olé. Par contre, je fais quand même intervenir, dans le début, un médecin. C'est les premières fois où on commence à avoir des médecins qui viennent voir, des médecins légistes. L'Institut médico-légal existe en 1823 seulement à Paris, c'est-à-dire 3-4 ans après ça. Donc l'idée de commencer à faire venir des médecins sur des cadavres, et pas seulement des policiers, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'intrigue, dans le début de l'intrigue, et qui correspond à une période. Partout là, dans les panneaux, dans le descriptif, là, on sent que toute la police scientifique, c'est bien après, hein, c'est dans les années 1830, 1850, etc., ça se développe bien après. En 1820, on est au début de la police dite scientifique. Et la police scientifique qui s'appuie sur des médecins, sur des connaissances médicales, c'est relativement nouveau. On ne cherchait pas grand-chose. Là, par exemple, le médecin va effectivement fouiller dans les viscères sur place il ne va pas emmener les corps dans je ne sais trop quel labo secret, là, mais il regarde sur place, il constate, il fait des constats. Il y a un médecin qui fait des constats et dont les policiers se servent après coup. Ça, c'est nouveau, ça s'est montré. Donc là, c'est le seul aspect, on va dire, où j'ai suivi, on va dire, le contexte policier de l'époque. Le personnage, je ne voulais pas qu'il ressemble à un policier de l'époque, pas plus que, finalement, son acolyte ne ressemble à Vidocq, qui pourtant a existé, qui n'était pas non plus un personnage, on va dire, ni exemplaire, ni typique des policiers de l'époque. Mais c'était intéressant, parce que le jeune flic qui est à côté de lui, qui est très cultivé, etc., s'inspire de cet ancien, on va dire, délinquant, bagnard, etc., devenu inspecteur, qui a écrit ses mémoires et autres, et qui le fait rêver. Bon. Le personnage de l'inspecteur Niveau de Rochelle ne rêve pas de son métier, il fait son métier, c'est tout. C'est un Parisien, il fait son boulot. Et là, pour une fois, cette enquête le fait sortir de son ronronnement, on va dire. Voilà. Et c'est ça qui m'intéressait. C'était de voir comment ce personnage allait bifurquer et partir vers des choses qu'il n'avait jamais eues en tête et qui le font échapper à sa condition de policier. En fait, les policiers ne m'intéressent pas particulièrement, c'est très clair. Mais par contre, le contexte, oui. À savoir, effectivement, la police scientifique, etc., oui. Alors, c'est une histoire policière, mais avec un policier qui va devenir de moins en moins policier, finalement. C'est exactement ça. Ouais. C'est comme le type de tout à l'heure qui existe, qui n'existe pas. Voilà, c'est un peu ça.
Quand vous créez une histoire, bon, je sais qu'il y a toujours une ébauche au niveau des personnages et des lieux, mais est-ce que vous concluez d'abord l'histoire dans sa globalité avant de commencer les illustrations ?
Alors, oui, de toute façon. Alors là, si on ne tient pas que compte, enfin, on va mettre Agatha Christie à part parce que l'histoire préexiste complètement. Donc c'est un travail séparé. Dans le cas de Pyramide ou dans le cas d'autres albums qui ne sont pas policiers, l'histoire, elle se construit au fur et à mesure. C'est rare qu'on ait la fin, enfin moi, en tout cas, que j'ai la fin au moment où je commence à écrire. C'est quelque chose qui évolue, qui se travaille. En tout cas, pour les albums qui sont publiés ou même pour d'autres qui ne l'ont pas été, toutes les histoires sont finies avant que quelqu'un travaille dessus. Je vois pas comment... Alors en même temps, c'est à la fois vrai et faux, parce que pour Pyramide, j'ai pas écrit les 3 tomes complètement avant qu'ils soient faits. J'ai écrit le premier tome complètement avant que la dessinatrice ne se mette à travailler dessus. Les tomes 2 et les tomes 3 n'étaient que des synopsis. C'est-à-dire, j'avais une vision en 2-3 pages de ce qui allait se passer dedans. Et c'était bien que quand je me suis mis à écrire réellement le tome 2, avec les dialogues, les découpages, etc., plein de choses ont changé. Et arrivé à la fin du tome 2, même phénomène, la dessinatrice pouvait tout travailler, et on continuait à travailler en échange. Et j'ai commencé à travailler le tome 3 qu'à ce moment-là. Et certaines choses qui, du coup, s'étaient mises en place dans le tome 2 ont provoqué des transformations dans le tome 3 qui n'étaient absolument pas prévues au moment où j'avais commencé, écrit complètement même le tome 1. C'est normal, hein, ça, c'est... si on écrivait tout de suite... en fait, on n'écrirait pas la même histoire. C'est clair qu'avec le temps qui passe, il y a des choses qui ne sont pas faites de la même façon. Voilà. Mais il y a des dessinateurs qui travaillent avec des scénaristes qui travaillent un peu au fur et à mesure, au jour le jour. Dans la mesure où on dépend surtout dans une histoire policière d'un timing, pour le coup, d'un rythme, je crois qu'il faut vraiment tout construire pour pouvoir arriver à la fin, gagner du rythme à des endroits qui sont ce qu'on appelle les tunnels, par exemple, quand il y a 4-5 planches avec les mêmes personnages dans un même lieu. C'est évident qu'on ne peut pas garder ça. Arriver à se dire là, il y a un temps mort, c'est trop long, et il va falloir trouver quelque chose. Alterner, couper, créer quelque chose. Donc on revient en arrière. C'est pour ça qu'à partir du moment où on peut fournir une histoire complète, complètement équilibrée à son dessinateur, ça me paraît indispensable d'avoir tout écrit.
Oui, donc je voudrais faire une petite remarque. C'est à propos donc de l'enquête. Pas l'enquête donc comme on l'entend à propos de policiers, mais l'enquête donc de l'historien. Donc je suis historien et donc ce qu'on nous apprend dans les premières années, c'est que donc l'histoire c'est une enquête à elle toute seule. D'où la racine du mot en grec, c'est historier, l'enquête. Et donc oui, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est que finalement, le scénariste, il fait sa propre enquête et il essaye de rétablir donc une certaine vérité Ce qui me permet de rapprocher votre série donc Pyramide avec Tardi que j'ai étudié, où il y a aussi donc beaucoup cette représentation de Paris, des monuments où il replace les lieux et particulièrement donc c'est ce Paris égyptisant donc avec la fameuse pyramide du parc Monceau. Je ne sais pas si vous connaissez la
non évidemment. Je la connais, on l'a utilisée dans la série. Il y a une petite scène qui se passe au parc Monceau près de cette pyramide. Et là encore, c'est un problème. Alors, bon, Tardi l'utilise beaucoup plus tardivement, sans jeu de mots d'ailleurs. Donc on n'est pas sur la même période et on n'utilise pas le décor de la même façon. Mais le parc Monceau était intéressant parce que précisément cette pyramide existe déjà en 1820. En fait, il y a un type qui faisait des grands parcs, la Carmontelle, je ne sais plus comment on appelait son métier, un paysagiste, on pourrait dire aujourd'hui, qui créait à l'époque des paysages, on va dire, côté ruines romaines, côté ruines grecques, etc. Donc, le parc Monceau, il y a à la fois ce côté colonnade romaine, il y a le côté, donc la petite pyramide, etc. La petite pyramide, vraiment petite d'ailleurs, et très abîmée. Alors voilà, par contre, un sujet qui est très agaçant. Quand on veut dessiner cette petite pyramide du parc Monceau, les deux personnages égyptiens qui soutiennent cette sorte de porte sont complètement abîmés par le temps. Et il n'existe aucun dessin représentant les visages. Alors on peut les deviner parce que c'est des personnages, on va dire, typés. Mais il n'y a aucun dessin représentant cette pyramide dans son bon état, on va dire, en bel état. Alors que d'autres monuments dans les documents de Carmontelle existent, ont été dessinés, on pouvait les reprendre sans aucun problème. Voilà. Donc oui, parc Monceau, il est intéressant, mais comme Tardi l'a utilisé et d'autres, ce n'est pas celui sur lequel j'ai le plus insisté, je préférais utiliser les autres lieux. Donc il est, je ne sais plus à la fin, je ne sais plus quel tome d'ailleurs, ça y est quand même, parce que c'était indispensable d'utiliser cette petite pyramide quand même.
Oui, voilà, donc c'était, oui, parce que ce qui est vraiment admirable donc, dans ce genre de bande dessinée, c'est de faire rentrer, enfin d'associer l'histoire d'une bande dessinée avec la grande histoire. Et finalement, ben, les deux, ces deux travaux, finalement, ils se rencontrent plus d'une fois. Puisque,
Il y a même trois niveaux d'histoire. Il y a la grande histoire, du style Bonaparte, 1798, la campagne d'Égypte, etc. Ce qui est connu. Et puis, il y a ce qu'on appelle la petite histoire, qui est quand même l'histoire réelle, mais qu'on connaît moins, l'histoire
quotidienne. Qu'on étudie aussi beaucoup, voilà. Enfin, qui est assez récente.
Il y a ces deux niveaux-là. Et le niveau vie quotidienne m'intéresse largement autant, sinon plus d'ailleurs que l'autre. Et puis, la troisième histoire, celle qu'on invente, en greffant autour de ces deux histoires, effectivement, autre chose, qui tient à la route parce que la grande histoire, la petite histoire sont là comme des sortes de piliers, des garanties. Ça donne l'impression. Il y a plusieurs choses, d'ailleurs, c'est intéressant aussi, c'est qu'au bout du compte, après, on ne sait plus ce qui est réellement l'histoire et ce qui ne l'est pas. Sur Bonaparte, par exemple, j'ai imaginé qu'il faisait des collections d'estampes érotiques. Alors, il fait faire là-bas, en Égypte, il y avait un dessinateur, donc celui qui s'appelle Moucharabieh, qui est un des personnages de l'histoire, qui fait donc des estampes avec des femmes égyptiennes, nubiennes, etc., des vraies estampes. Et il révèle petit à petit que celui qui lui achète ces estampes, c'est Bonaparte sur place. Alors on connaît le goût de Bonaparte pour les femmes, donc ce n'est pas quelque chose qui paraît étonnant. Et plusieurs fois, on m'a fait la remarque en me disant « Oui, là, c'est totalement Bonaparte. » Non, ça, c'est totalement inventé. Ce serait le hasard si, quelque part, on écrivait effectivement qu'il faisait des collections d'estampes. Et puis, je ne sais plus quel était l'autre renseignement qu'on m'a dit, mais ça, Bonaparte, il ne l'a jamais fait. Et je dis « Ça, si, ça, c'est dans la vraie histoire. Je veux dire, ça, je ne l'ai pas inventé, c'est réel. Voilà. » Donc, il y a un moment où, quelque part, on ne sait plus si certaines choses sont... Alors ça, c'est amusant.
Oui, c'est un jeu pour le lecteur. De
voilà. Et c'est amusant aussi pour soi, parce que nous, on sait ce qu'on a inventé et ce qu'on n'a pas inventé. Et puis, il y a un petit moment où on se dit qu'on a piégé le lecteur, que tout le monde est trompé, c'est marrant. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'après, il y a des choses, je ne sais plus trop si c'est ce qui est réellement inventé, ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a un moment où on oublie sa propre documentation. Et c'est quelquefois, là, en préparant ça, j'ai retrouvé donc, les documents, etc., pour remettre ça en forme. Il y a des choses dont je ne me souviens plus, hein, ce que j'avais utilisé, pourquoi j'avais choisi tel nom, tel personnage, etc. On oublie. Et au bout du compte, il y a peut-être des choses dont on me dira que ça, c'est de moi. Je crois, je vais peut-être dire oui alors que c'est faux et inversement. Quoi. Mais bon, c'est des détails, mais c'est amusant, oui.
Euh, Ma question, c'est sur la recherche architecturale. C'était pour savoir si vous aviez déjà fait ou connaissiez le procédé pour faire le chemin inverse. Par exemple, comment évolue l'architecture dans le futur ? Si on a à construire une bande dessinée dans le futur, l'architecture, comment se développerait ?
Alors ça, c'est une question à laquelle je pourrais difficilement répondre. Je ne suis pas architecte. Alors, je peux répondre en partie. Pour ces séries qui sont des séries du passé, avec la dessinatrice, on s'est partagé le travail. Toute la partie recherche documentaire liée à l'architecture, je m'en suis occupé. C'est-à-dire les lieux, tout ça, ça m'inspirait. Tout ce qui était vêtements, ça ne m'inspirait pas du tout. Et ça, c'est elle qui l'a fait. Donc, on va dire que l'architecture vestimentaire, comme la dessinatrice avait fait des études d'histoire de l'art, c'est important aussi, elle s'est complètement consacrée à cette recherche des costumes, des coiffures, etc. Et des couleurs, des costumes, bon. Tout l'aspect, par exemple, là, si vous me posez des questions sur le vêtement des policiers, c'est elle qui s'en est occupée, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, les lieux m'intéressaient. Donc, l'évolution de certains monuments, est-ce qu'ils existaient, qu'est-ce qui était présent en 1820, etc., qu'est-ce qui existe aujourd'hui, ça m'intéressait. Comment maintenant représenter l'architecture dans une histoire futuriste, d'anticipation, etc. Il suffit de voir qu'avec les tours jumelles, c'est très difficile de prévoir la survie des bâtiments. Donc, on peut inventer ce qu'on veut, c'est du futur. Je peux répondre en partie dans l'album Le Marathon de Safia là, qui vient de sortir, là, qui est une histoire qui se passe 15-20 ans plus tard, qui est une histoire non policière là, sur les sports. J'ai commencé l'histoire, elle se passe au Stade de France dans 15-20 ans, je crois que c'est en 2013, hein, le début de l'histoire, au moment où j'imagine qu'on agrandit ce stade pour des raisons, pour le coup, d'évolution architecturale, besoin de rentabiliser les lieux, de mettre des cinémas, des crèches, etc. dans les stades pour qu'on les rentabilise 24 heures sur 24. Ça fait partie des projets, pas forcément pour le Stade de France, mais pour différents stades, pour que ces lieux vivent tout le temps. Alors là aussi, c'est un article qui m'a inspiré cette idée. Et donc, le côté futuriste, on peut dire, de certains bâtiments, comment représenter le Stade de France dans quelques années ? Comment imaginer qu'on va créer à côté des structures, lesquelles, etc. Là, il faut laisser libre cours à son imagination. Je n'ai pas le livre là-bas. Le dessinateur qui a dessiné le marathon de Safia est un dessinateur très réaliste. Et c'est lui qui a imaginé, pour le coup. On est allé visiter, on a pris des photos, etc. Il y a plein de choses sur Internet aussi qui aident du point de vue documentaire. Maintenant, c'est beaucoup plus facile, je dirais, qu'il y a quelques années. Mais aller sur les lieux, prendre des photos, on utilise tout bêtement les vestiaires du Stade de France, des choses comme ça. Bon, on ne trouve pas ça sur Internet, il faut aller sur place, prendre des photos, à quoi ressemble une poubelle, ou un vestiaire, les douches, n'importe quoi, autant que ça ressemble à quelque chose, puisque ça existe. Donc il faut y aller, le visiter, prendre des photos. Mais après, savoir comment les extérieurs vont évoluer, là, il faut imaginer. On imagine. Donc le dessinateur a fait un travail d'architecte, prospectif, je ne sais pas, futuriste, voilà. Mais ça fonctionne bien puisque ceux qui lisent l'histoire oublient qu'elle se passe légèrement dans 10 ou 15 ans. Et c'est ce qui est important parce que ce n'est pas essentiel. Mais c'est simplement, ça permet d'avoir une liberté supplémentaire parce qu'on est un peu plus tard. Je dirais qu'il y a deux libertés. Écrire une histoire qui se passe aujourd'hui, on n'est pas très très libre. Parce que tout le monde connaît l'histoire d'aujourd'hui. Mais dès qu'on est 100 ou 200 ans en amont, on est beaucoup plus libre parce qu'on peut effectivement choisir ne pas tout raconter. Il y aura toujours pour le coup un puriste ou quelqu'un qui connaît très bien tel sujet qui dira oui mais là on aurait dû quand même parler d'eux, etc. Mais c'est plus, on est plus libre. Et dans le futur c'est pareil. Ça a au moins cette faculté-là. On ne peut pas être réaliste sur le futur, ça c'est clair. On peut essayer d'imaginer de façon réaliste, mais c'est tout. C'est pour ça que les bandes dessinées de science-fiction vieillissent vite. Hein. Parce que quand le futur, on va dire, est rattrapé par le présent, il y a un moment où on se rend compte que ça ne ressemble plus du tout à ça. Donc, voilà. Donc, c'est là où il faut être logique. Mais de toute façon, même s'il est agrandi, ça ne ressemblera pas à ce qu'on a imaginé. Mais ce n'est pas grave. Ça veut dire que les architectes ne sont pas très bons. Ce qu'on a imaginé là est très bien. Mais ça coûterait très cher.
Commentaires. Donc, merci encore Didier Calaguillou d'avoir fait cette conférence. C'était très intéressant. Il y a quelques BD qui sont donc sur un stand à la sortie, si vous voulez jeter un œil, donc pour découvrir un peu plus le travail de Didier Calaguillou. Merci. Bonne fin de soirée à tous. Et puis, à bientôt à Mendès France ou dans d'autres lieux. Au revoir.